Chers frères et sœurs, en cette solennité où nous célébrons la nativité de Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ, quelle joie d'être réunis dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour entourer nos frères José Celestino et Fedi au jour de leur ordination presbytérale. Dans quelques instants, par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit-Saint, ils deviendront prêtres de Jésus-Christ pour notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de loin et parfois de très loin, du Venezuela, d'Égypte, du Liban, du Rwanda, d'Espagne, d'Italie, du Béarn et du Pays Basque, de France même. Bienvenidos en particular a la familia, los hermanos, los amigos de José Celestino que participan a esta celebración de su ordinación con YouTube. Son las 4 horas, ¿no?, en Venezuela. Presto a la mañana. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi par la chaîne YouTube du diocèse et aussi par les ondes de Radio Lapourdi. Cette messe est directement diffusée. Et je veux saluer avec une particulière affection les familles de José Celestino et Fedi, et très particulièrement leurs mamans respectives qui sont ici et qui viennent de si loin pour vivre ce temps de grâce et d'intense émotion. Muchas gracias, Berenice, por el don de vuestro hijo a la diócesis de Bayonne. Shukran, merci Chantal, pour le don de Fedi à notre diocèse. José Celestino et Fedi, en effet, viennent de très loin. Le premier vient du Venezuela, en Amérique latine, et le second vient d'Égypte. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, comme dit la Sainte Écriture. Vous me direz, comment est-ce possible ? Membre du chemin néo-catéchuménal, réalité ecclésiale présente dans le monde entier, ils y ont mûri la grâce de leur baptême et discerné leur vocation sacerdotale. Et lors d'un rassemblement annuel des candidats au séminaire du chemin, ils ont été affectés par tirage au sort à l'un des 110 séminaires Redemptoris Mater du monde entier. Et pour eux, le sort est tombé sur le diocèse de Bayonne. Ça aurait pu être pire, hein. C'est dire que s'ils sont ordonnés aujourd'hui pour être incorporés, incardinés, dit-on, à notre diocèse, ce ne peut être que pure volonté de Dieu. Cela nous rappelle le choix de Matthias dans les Actes des Apôtres, où l'on pria le Seigneur de désigner celui des 2 candidats présentés qui devait prendre la place de Judas. On tira au sort entre eux et le sort tomba sur Matthias, qui fut ainsi associé par suffrage aux 11 apôtres. Et le sort tomba sur Fedi et sur José Celestino. Comment ne pas être reconnaissant à ces 2 jeunes hommes d'avoir répondu oui à l'appel du Seigneur pour servir notre diocèse comme pasteur et missionnaire. Mais comme nous voulons supplier aujourd'hui le Seigneur pour que dans nos communautés et nos paroisses, des jeunes se lèvent pour donner leur vie au service de l'Église qui est ici, je le dis aux jeunes, n'ayez pas peur de vous donner au Seigneur. Il ne prend rien. Il donne tout. Cher fils, vous savez bien, vous, comment la parole de Dieu que vous scrutez fréquemment vient éclairer votre histoire et vous aider à discerner comment le Seigneur agit dans votre vie. la parole tirée au hasard lors de la vigile préparatoire à votre ordination est venue confirmer pour chacun de vous le choix de Dieu. C'est incroyable comment Dieu a toujours une parole pour nous, une parole ajustée à notre vie. Est-ce incroyable, non? Que le Seigneur tiene una palabra para cada uno de nosotros. Pour toi, Fédi, le sort est tombé sur Matthieu 9, 35, 38, où Saint Matthieu nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, proclamant l'évangile du royaume, ce qui te renvoyait explicitement à la belle expérience d'itinérance missionnaire que tu accomplis actuellement au Rwanda. » Je salue el padre Enrico, qui est l'itinérant di questa zona del Rwanda. Rwanda. Où tu t'es rendu compte, comme tu me l'écris dans ta lettre, que tu t'étais habitué aux commodités de la société européenne, râlant pour le moindre souci. Ça nous rejoint, non ? Là-bas, tu as dû partager la condition de pauvreté de ceux auxquels tu es actuellement envoyé. Le texte de l'Évangile poursuit avec l'invitation de Jésus à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et tu as pris conscience que si tu es là aujourd'hui, tu le dois d'abord à la prière de ta communauté du Caire, de tant de personnes qui ont prié pour toi, prière qui a été exaucée. En visitant ta communauté en Égypte en avril dernier, j'ai rendu grâce pour ta famille et tes frères de communauté, dont la prière est tellement efficace. Déjà deux prêtres et un séminariste. Le deuxième prêtre a proclamé l'Évangile. Il est lui aussi égyptien, du Caire. Il est actuellement en mission à Sidon, au Liban. Et j'ai admiré leur abnégation, parce que ces trois jeunes sont tous appelés à servir d'autres églises que l'église d'Égypte. En outre, tu as vu dans ce passage d'Évangile sur la vocation et la mission des apôtres une confirmation par le Seigneur de ton appel à entrer dans la compassion du bon pasteur pour les âmes qui sont comme des brebis prostrées, lasses, sans berger, quand tu t'es levé pour entrer au séminaire. C'était au JMJ à Cracovie. Tu apprenais dans le même temps le cancer de ton papa. Tu t'es alors demandé si c'était bien le moment de répondre. Tu avais un métier, tu étais ingénieur, tu étais le seul de ta famille à conduire. Mais c'est lui qui t'a encouragé. Et tu as été frappé par la paix avec laquelle il t'a dit « C'est le Seigneur qui m'envoie cette maladie. Et c'est une grâce. Et c'est lui qui t'appelle. Alors, tu dois faire confiance. » Je suis sûr que du haut du ciel, il est avec nous. Il te regarde avec affection. Et il jubile avec toute la cour céleste. Et si tu as connu après la mort de ton père un temps de descente en toi-même, assorti de doutes sur ta vocation, le Seigneur t'a aidé à mûrir. Tu as même vu dans ces doutes une pédagogie du Seigneur pour apprendre à connaître tes faiblesses et à t'appuyer sur lui seul et non pas sur toi-même. La scrutation de l'Écriture t'a particulièrement aidé à retrouver la paix. Et toi, José Celestino, tu es tombé au hasard, au cours de cette vigile, sur 1 Corinthiens 15, 40, 44. J'avoue que quand j'ai lu ce passage, j'étais un peu étonné. Je lis quelques lignes. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. Ô combien cette parole de Paul te rejoignait, toi qui relis dans ces versets toute ton histoire, la séparation de tes parents quand tu étais tout petit, ton combat pour être fidèle parce que tu étais le seul de ta famille à être dans l'église. Tu demandes le baptême à 8 ans, tu vas seul à la messe, tu écoutes les catéchèses du chemin à 13 ans, tu te lèves pour le séminaire, tu traverses l'Atlantique pour te lancer dans l'aventure. Et puis tu dois faire face depuis quelques mois à la fragilité de ton corps. Tu m'écrivais dans ta lettre, pendant le temps du diaconat, le Seigneur est venu me visiter avec les soucis de santé. El Señor vino a visitarme con problemas de salud. Cela bouleversait tout mon être, ma manière de voir les choses. Il est venu tout casser, je suppose, de ton assurance, pour enlever ce qui m'empêche de le suivre. Il est venu pour m'enseigner l'humilité et vivre dans ma chair au jour le jour et ancrer tout mon être en lui. Et cette autre parole de Paul qui t'a touché. Le premier homme issu du sol est terrestre, le second, lui, vient du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est bien là que tu vois, à cause même de ton histoire contrariée, de tes faiblesses et de tes péchés, la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie, comme tu le dis, le Seigneur veut que je devienne, par la puissance de sa résurrection, un prêtre céleste qui montre le ciel. Un prêtre céleste qui montre le ciel. Ce n'est pas pour rien que tu t'appelles Celestino. Cher fils, vous avez bien compris que si ce jour vient confirmer votre appel, et si vous pourriez reprendre les paroles du prophète Isaïe qui s'appliquent si bien à Jean-Baptiste, « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Quel miracle et quelle merveille. Quel être étonnant je suis, quel être étonnant vous êtes, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Mais ce jour est aussi pour vous un nouveau commencement, une nouvelle naissance, portée par le sein maternel de l'Église depuis si longtemps. Configuré au Christ tête et pasteur de l'Église par la grâce du sacrement de l'ordre, vous recevrez le pouvoir sacré, sacra potestas, d'enseigner, de prêcher avec l'autorité même du Christ, de sanctifier le peuple chrétien par les sacrements, principalement d'Eucharistie et de réconciliation, in persona Christi, dans la personne du Christ, et de gouverner la portion du peuple de Dieu qui vous sera confiée, l'unité des triamunera, l'enseignement, la sanctification et le gouvernement, dans la personne du Christ et donc dans la personne du prêtre, est un des acquis principaux de l'enseignement du Concile Vatican II sur l'Église et sur le sacerdoce. Et certains voudraient aujourd'hui la faire voler en éclats, cette unité. Dans une conception faussée de la synodalité, où la gouvernance serait transférée aux fidèles laïcs. Certes, nous déplorons aujourd'hui le scandale des abus dans l'Église. Mais loin de dénaturer l'identité du prêtre, instituée par le Christ et transmise fidèlement par la tradition, il s'agit plutôt de s'attaquer aux vraies causes de ces abus, que le pape Benoît XVI a si bien identifié dans un texte paru en 2019. Et la première des causes est d'ordre théologal. C'est l'oubli de Dieu dans la vie des hommes et parfois même dans la vie des prêtres. C'est l'oubli de l'objectivité de la foi et de la morale. C'est le règne du subjectivisme de la foi. C'est l'athéisme pratique qui imprègne notre société et qui est entré dans l'Église elle-même. Aussi est-il urgent de redonner à Dieu la première place comme nous l'avons chanté au début de cette célébration avec force, « Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur notre Dieu, et l'homme n'est pas Dieu. » En ce sens, le prêtre doit bien se garder de toute autoréférentialité, comme le dit le pape François. Il doit être par excellence l'homme de Dieu, l'homme pour Dieu, l'homme totalement donné à Dieu, l'hombre de Dios, l'hombre para Dios, l'hombre totalmente consagrado a Dios. Et sa promesse d'obéissance doit en être le signe éloquent et concret. Benoît XVI dit un jour que le signe de l'antéchrist est de parler en son nom propre. Le signe de l'antéchrist est de parler en son nom propre. Jean-Baptiste, la voix qui porte la parole d'un autre, dans sa radicalité, vous donne un exemple sublime. Lui qui l'a vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Lui qui confessera « Moi, je ne suis pas le Christ », mais qui se définira essentiellement comme l'ami de l'époux, qui se tient là, qui écoute sa voix et qui est ravi de joie à la voix de l'époux. De même, Jésus ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il vous invite aujourd'hui à renforcer votre lien d'amitié avec lui par la scrutation de l'Écriture fidèle et par la prière d'intimité. Comme tu l'écris dans ta lettre, José, c'est le Seigneur qui me donne la force et l'esprit pour servir les autres. Et cela aujourd'hui me rejoint parce que je sais que ce n'est pas moi et que chaque jour je dois être attaché au Seigneur et voir que c'est lui qui me donne son esprit. Jésus lui-même, comme le remarquait encore Benoît XVI, prêchait le jour, mais la nuit, il priait. Jesús predicaba de día, pero oraba de noche. Et il commentait, le pape Benoît XVI, toutes les méthodes sont vides sans le fondement de la prière. La parole de l'annonce doit toujours baigner dans une intense vie de prière. Mais ce n'est pas tout. Si ce jour est pour vous et pour nous un jour de grande joie, il n'est pas pour autant votre jour de gloire. Este día es un día de grande alegría, pero non es vuestro día de gloria. Au contraire, vous êtes appelé désormais et un nouveau titre à entrer dans la kénose du Christ. C'est ce que vous enseigne encore le Baptiste, dont la parole doit sonner pour vous comme un programme. Il faut qu'il croisse, lui, et que moi, je diminue. Et en effet, le Baptiste a connu l'abandon du Seigneur, les ténèbres de la prison de Maquérante, le martyr par décapitation. Lui, salué pourtant par Jésus comme le plus grand des prophètes, il pouvait s'attribuer les paroles du serviteur d'Isaïe « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Puissions-nous pouvoir nous aussi nous approprier ces paroles, chers frères dans le sacerdoce. Dans ta lettre, Fédi, tu m'écris « Au Rwanda, c'est un temps extraordinaire pour moi, où j'ai beaucoup appris. » Surtout à être un serviteur inutile de la parole dans un pays qui a beaucoup souffert et qui souffre encore. J'ai compris que le Seigneur a choisi pour moi cette place pour me faire grandir dans la foi et faire grandir aussi mes capacités de souffrance. Comprenez bien que pour Jésus lui-même, dont le Baptiste est le précurseur jusque dans sa mort, sa vie et son ministère furent un chemin vers la croix. Comme le souligne Benoît XVI, Jésus n'a pas racheté le monde par de belles paroles, mais par la souffrance et la mort. Jésus non salvó el mundo con bellas palabras, pero con el sufrimiento y la muerte de la cruz. Sa passion, continue-t-il, est une source intarissable pour le monde. Il faisait encore remarquer que saint Augustin liait le mandat confié à Pierre de paître les brebis à la prophétie de son martyr. Il dit « Paie mes brebis » et lui annonce qu'il donnera le témoignage de la mort sur la croix. Et d'ajouter « Le royaume de Dieu souffre violence, mais la violence de Dieu, c'est la souffrance et c'est la croix. Nous ne pouvons donner vie aux autres sans donner notre vie. Rappelons-nous les paroles du Sauveur qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » C'est le sens des paroles que je vous adresserai en vous remettant le calice et la patène et dont vous ferez mémoire dans chaque Eucharistie. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter au Seigneur. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Mais vous pourrez dire en chaque Eucharistie, avec le serviteur d'Isaïe, « Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu, c'est mon Dieu qui est ma force. » C'est l'Église qui protégera votre sacerdoce, l'Église qui vous portera dans sa prière, l'Église du ciel que nous allons maintenant invoquer et l'Église de la terre, plus concrètement votre communauté, celle qui sera confiée à votre ministère et celle qui vous accompagnera dans votre chemin néo-catéchuménal. C'est la Vierge Marie, première Église et mère de l'Église, qui vous gardera dans la fidélité à vos engagements, celle que vous invoquerez chaque jour par la récitation du chapelet et à qui vous renouvellerez, au terme de cette célébration, votre consécration. Amen.